Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu. Au menu, une triple dose de rugby. Vous prendrez bien également un petit peu de football et d'athlétisme. Je vous présente nos invités, nos consultants. Thierry Cornaille, bonsoir. Pierre Forest, bonsoir. Et Eric Savignac, bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer par le rugby parce qu'il y a eu du boulot ce week-end avec une triple actualité. Honneur aux dames, si vous le voulez bien, messieurs, avec l'équipe de France féminine qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Victoire 18-15 face à l'Irlande. Ça fait partie des matchs que vous avez suivis ce week-end avec attention, Pierre Forest, puisque vous nous avez confié hors antenne que vous aviez regardé au moins 4 matchs en entier.
Oui, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une Coupe du Monde déjà, et puis de l'équipe de France. Donc, évidemment,
ça fait de bonnes raisons.
C'est de bonnes raisons. C'est en plus en Angleterre, même si les horaires ne se conviennent pas trop avec nos horaires en Nouvelle-Calédonie. Mais je pense que pour l'équipe de France féminine, l'objectif était de viser une place en demi-finale. On peut dire que l'objectif est atteint, mais ça n'a pas été sans mal, puisque sur le vu de la rencontre, on aurait très bien pu le perdre ce match, puisqu'on avait en face une équipe irlandaise qui a beaucoup surpris, on ne l'attendait pas à ce niveau-là, et qui a dominé outrageusement, on va dire ça comme ça, la première mi-temps. C'est vrai que les conditions atmosphériques n'étaient pas idéales, puisque du vent, de la pluie, etc., en faveur des Irlandaises en première mi-temps. Et puis elles auraient pu scorer beaucoup plus que les... Il me semble à la mi-temps, c'était 13-0, me semble-t-il. Voilà. Et puis en deuxième mi-temps, c'est l'équipe de France qui a bénéficié de tous ces avantages météorologiques et puis qui a petit à petit remonté un petit peu le fil du et en marquant un bel essai un bel essai de 100 mètres au moins à peu près. Donc oui, l'objectif est atteint, mais il va falloir se farcir les Anglaises qui jouent à domicile.
Ouais.
Et je crois que le dernier match amical, c'était à Mont-de-Marsan, en métropole. Les Anglaises avaient gagné 40-6, je crois.
Ouais.
Comme ça. Bon, les Anglaises restent quand même la grande favorite. Et puis on sait que la Coupe du Monde féminine en rugby, c'est généralement une finale. Les Black Ferns, les Néo-Zélandaises contre les Anglaises. Donc ça serait un exploit.
Ouais.
Bon, bien sûr que impossible n'est pas français, il faut espérer, mais ça va être très très difficile de battre les Anglaises en demi-finale, chez elles.
Ouais. Thierry Cornaille, vous suivez cette Coupe du Monde féminine ?
J'ai suivi le match en direct.
Ah bah oui, vous êtes moins courageux, Pierre. Bien dans le micro, par contre.
J'ai pas la même endurance que Pierre Forest, mais donc j'ai regardé quelques extraits le matin.
Oui.
On a frisé la correctionnelle, tout simplement. C'est un mauvais match de l'équipe de France. Avec une première mi-temps catastrophique, beaucoup de fautes, même quelques cartons jaunes, etc. Donc, voilà, vraiment un match à oublier, même si, en effet, elles se sont battues sur le terrain, sur la défense, notamment en fin de match. Les Irlandais, vraiment, n'étaient pas loin de marquer, surtout la première mi-temps. Je crois que la première mi-temps, il y a eu 30 ou 35 actions des Irlandais avant de siffler la mi-temps. Quoi. Donc, vraiment.
Gros point fort des Françaises, quand même.
La défense. Vraiment. Mais bon, match décevant à oublier. Si elles font le même match contre les Anglais, il y a de quoi s'inquiéter sérieusement.
C'est le point fort de cette équipe, c'est la défense. Après, il n'y a pas que la défense, il faut aussi. Peut-être aussi préciser que la capitaine, c'est une footounienne, qui est en études de médecine, je crois, en cinquième année, puisque. Contrairement à l'Angleterre et contrairement à la Nouvelle-Zélande, le rugby féminin n'est pas professionnel, donc c'est soit des étudiantes ou soit des filles ou des femmes qui travaillent, donc c'est tout à leur honneur.
Co-capitaine de l'équipe de France, qui a eu malheureusement un coup de match et un carton jaune d'ailleurs, mais qui a participé par contre à l'essai de 100 mètres, elle était dans la ligne sur l'essai qui a été marqué par l'équipe de France.
Éric Savignac, président de la Ligue calédonienne de triathlon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure en vous présentant, mais amateur de rugby, bien évidemment. Vous suivez les filles aussi ?
Oui, bien sûr. Bon, ouais. Amateur de rugby, ancien joueur de rugby.
Ouais, aussi.
Donc, oui, j'ai suivi ce match qui était passionnant. Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions au départ, beaucoup de stress de la part des Françaises, on l'a vu même sur les hymnes. Et ensuite, l'Irlande qui a imposé... un affrontement sur les avants avec du pilonnage. Le premier essai, il y a quand même un peu de roublardise avec des accrochages un petit peu sur les défenses. Mais bon, voilà, c'est sûr qu'elles Elles se sont faites un petit peu broyer sur la première mi-temps, mais en seconde mi-temps, on a vu quelques relances, un peu de Flench Ferrer et puis des relances avec un essai magnifique de Johanna Grisé là qui fait une belle Coupe du Monde.
On a beaucoup parlé des conditions météo qui étaient franchement très difficiles, enfin très britanniques finalement pour cette rencontre. Les Françaises disaient oui, ça nous a un petit peu perturbé, mais en fait les conditions météo c'est pour tout le monde pareil. Enfin, je veux dire, ça avantage ni désavantage l'une des deux équipes.
Ouais, mais Eric, quand on joue derrière, hein, quand on a un jeu nous qui est quand même porté sur les gazelles, hein, et on a un peu moins de poids, notamment les Anglaises ou les Néo-Z, mais derrière ça galope quand même. C'est pas des gros gabarits, et à un moment donné les terrains gras et la pluie n'avantage pas ce type de jeu. On l'a vu notamment chez les hommes avec le Racing et des terrains secs et des conditions optimales où ça permet de jouer à la balle. Un peu moins de vent, un peu plus de combinaisons réussites. Là, c'est sûr qu'il y a eu quelques ballons tombés, notamment en première mi-temps sur le premier essai. Où là, il fallait manger un peu de poulpe pour accrocher la balle parce que ça glissait, voilà.
Pour le prochain match, la demi-finale, Angleterre-France, vous voyez les choses comment? Je ne vais pas vous demander de pronostic, mais vous la voyez comment cette demi-finale?
Elles n'ont rien à perdre. Après Pierre. Elles n'ont rien à perdre.
Oui.
Elles n'ont rien à perdre. Il y aura peut-être un peu moins de stress libéré. On voit que de temps en temps, il y a des matchs un peu difficiles comme ça où on passe... On passe au forceps et puis derrière on se libère un peu. Maintenant on verra les conditions, on verra si elles ont bien récupéré. Et puis moi je pense que derrière elles peuvent les embêter. Après devant ça va être très très difficile parce qu'il y a quand même un pack impressionnant. Elles ont pas loupé les cours de muscu. Donc ouais ça va envoyer.
Elles ont tout à gagner. Elles ont tout à gagner. Elles sont pas favorites, elles le savent déjà. Donc c'est un match, hein, quelles que soient les conditions, comme tu l'as précisé tout à l'heure. Mais bon, l'objectif étant d'atteindre les demi-finales, c'est que du plus maintenant, ouais. Voilà, donc.
Ouais. Thierry Cornaille, vous le disiez tout à l'heure.
Général, Pierre, il se trompe des pronostics. Hein. Je vais vous dire ça, simplement un petit recul de quelques années. Sincèrement, les Anglaises, quand même, sont au-dessus du lot. Elles ont un pack, elles ont broyé les Écossaises en quart de finale. Je vois mal comment les Françaises vont résister. Maintenant, en effet, sur un match, tout est possible. Hein,
là, c'est un crunch.
Ouais. Mais bon, quand même. Là, il y a devant, quand même. Je rappelle que le rugby, ça commence devant, quand même. Et quand il n'y a pas de mêlée, c'est un peu compliqué. Hein.
La seconde demi-finale vers une confrontation Nouvelle-Zélande-Canada, il n'y a pas photo. Les Néo-Zélandaises. Alors, passer facile
oui,
ou...
Oui, les Black Ferns sont au rendez-vous, hein, puisque je crois qu'elles ont gagné les deux dernières éditions de la Coupe du Monde, les Néo-Zélandaises, me semble. Et par contre, la surprise, c'est les Canadiennes, hein, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Elles ont fait beaucoup de progrès. On l'a même vu aux Jeux Olympiques à 7, n'oublions pas que ce sont les Canadiennes qui nous avaient sorti l'équipe de France féminine au Stade de France. Ouais. Elles ont surpris. Je ne dis pas qu'elles sont favorites contre les Néo-Zélandaises, parce qu'elles sont. Tout le monde avait misé sur une finale Angleterre-Nouvelle-Zélande. Mais bon, après, là aussi, ils ont leur va-tout. Ils ont un jeu qui est assez beaucoup plus homogène par rapport à l'équipe de France, hein, on l'a dit. Le paquet d'avant des Françaises est un peu léger vis-à-vis des Anglaises. Mais là, ça m'a l'air. Ça m'a l'air un peu plus équilibré, même s'il y a un gros avantage quand même pour les Néo-Zélandaises.
Eric, Nouvelle-Zélande, Canada.
Je suis content de revoir le Canada à ce niveau, parce que ils ont été secoués un petit peu par quelques affaires à un moment donné. C'était pas évident de toucher un peu le fond du sac. Et puis là, elles se reprennent sur le set. La Fédé a changé d'optique, la formation. Et voilà, je suis content que... qu'un continent comme l'Amérique du Nord là, participe à ça et soit dans le dernier carré. Maintenant là, ça va être chaud.
Gros challenge.
Gros challenge. Après elles ont pareil, elles ont rien à perdre. Il y a les conditions météo, il y a l'arbitrage. On voit maintenant que sur un match, un plaquage un peu haut, et on l'a vu sur l'équipe de France, un plaquage haut et c'est un carton jaune répétitif. On peut perdre quelques bons éléments. Donc voilà, mais là, les Néo-Zélandaises sont structurées, voilà, ce serait difficile.
Voilà. Thierry, sur cette
deuxième demi-finale. Je ne rajouterai rien, les Néo sont favoris très largement, mais c'est une bonne chose qu'il y ait d'autres équipes nationales qui viennent s'insérer un peu dans le combat des grandes. Quoi.
Puisque l'on parle des équipes néo-zélandaises, on va parler des messieurs, des All Blacks, parce qu'il s'est passé un truc quand même ce week-end qui est assez énorme. Le rugby championship, c'était la quatrième journée, et l'Afrique du Sud qui a été s'imposée 43-10 en Nouvelle-Zélande. C'est du jamais vu dans l'histoire des Blacks. Pierre ?
Oui, puisque...
C'est un truc de dingue. Hein,
rien ne présageait d'une telle déconvenue. Mm-hmm. Surtout qu'à la mi-temps, les Néo-Zélandais étaient encore en tête. Je crois que c'était 10-7, me semble-t-il. Mm-hmm. Et surtout qu'une semaine auparavant, à l'Eden Park, ça avait été un très très beau match où les Sud-Africains, ils essayaient de revenir sur la fin de la deuxième mi-temps, mais avec une défense de fer.
Il y a eu une fin de match semaine d'avant qui était extraordinaire.
Ouais. Et ils ont réussi à préserver leur invincibilité à l'Eden Park. Ouais. Alors, est-ce que c'est ce match-là qui a laissé des traces physiquement une semaine après ? On peut le penser, mais ils sont habitués à ce genre de rencontres. Mm-hmm. Mais rien ne présageait d'une telle déconvenue en deuxième temps. Il ne faut pas oublier qu'à l'issue du premier match, l'entraîneur néo-zélandais avait pratiquement reconduit la même équipe à quelques jours près, à un ou deux jours près. Mm-hmm. Et par contre, chez les Box, il avait fait le ménage, il en avait enlevé sept joueurs sur le 15 qui avait démarré. Et Biel lui en a pris, puisque ça a été, surtout en deuxième mi-temps, un jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus... Ouais. Donc, et notamment la charnière. Mm-hmm. Je crois qu'on n'insiste pas assez sur la charnière des box, avec Reinach qui est joueur mobilier, il joue au top 14, là, mm-hmm. champion du monde aussi, également, et qui a été associé à Liebeck, un jeune en demi d'ouverture, qui a impulsé des joueurs moins au pied, mais voilà, ils ont marqué 36 points en deuxième mi-temps, sans en prendre un seul point, 36-0. Mmh.
Et on parle bien de l'équipe de Nouvelle-Zélande,
en face. Et on parle bien de l'équipe de Nouvelle-Zélande, voilà.
Ouais. Eric, sur ce match, c'est incroyable ce score. Enfin,
ils ont oublié de sortir du vestiaire, voilà. Ils sont rentrés à la mi-temps...
Ils sont
ressortis, ils ont pris la marée. Mmh. Et puis derrière, après, niveau mental, devant, on a du lourd quand même. C'est inexplicable. Maintenant, moi, ce qui me gêne un peu, c'est leur manque de régularité. Ouais. Ils peuvent être au top, comme redescendre, alors qu'avant, ils avaient quand même cette constance. Là, effectivement, ils sont restés dans le vestiaire, un peu au chaud. Mmh. Et derrière, ils se sont peut-être vus un peu trop beaux. Mmh. Voilà.
Thierry ?
Moi, je trouve qu'on pressentait un petit peu cette situation des Blacks un peu compliquée depuis déjà quelques mois. Je rappelle les trois matchs contre l'équipe de France, quand même relativement difficiles, contre une équipe de France B ou C. Oui. Hein, donc, c'était pas non plus. Et puis, leur tournée en Argentine, leur passage en Argentine, ils perdent un match contre l'Argentine, un deuxième match relativement difficile. Mmh. Donc déjà, les observateurs indiquent quand même qu'il y a un peu un vieillissement de cette équipe et que c'est vraiment une équipe en fin de règne. Beaucoup de joueurs à 80, 100 sélections, 120 sélections. Donc oui, beaucoup d'expérience, mais en même temps, certainement une usure physique. Et puis surtout en face, Pierre l'a dit, c'est un renouvellement complet de l'Afrique du Sud, des jeunes équipes. C'est un peu le cas aussi de l'Australie d'ailleurs. Mmh. Et donc une équipe jeune, vraiment à la fois très très physique, mais également très joueuse. Pour la première fois, on voit les box jouer aussi derrière, de façon assez extraordinaire. Et je pense que les deux équipes, j'anticipe un petit peu, mais ce sont les deux équipes favorites pour la Coupe du Monde. C'est l'Australie chez elle qui a renouvelé ses actifs, qui est en tête d'ailleurs du Championship. Mm-hmm. Et puis l'Afrique du Sud, qui vont être à mon avis très difficiles à battre, parce qu'ils ont commencé à renouveler leurs effectifs dès maintenant. Et donc, ils arriveront à la Coupe du Monde avec 2 ans d'expérience. Quoi.
Ouais. Vous parliez de fin de cycle pour cette équipe de Nouvelle-Zélande. Alors, je ne suis pas spécialiste du tout du rugby, mais on a le sentiment qu'avant, il y avait une génération qui passait en Nouvelle-Zélande et qu'il y en avait une qui arrivait. Alors que là, on a le sentiment que derrière, il y a peut-être un peu moins de monde. Je me trompe sans doute.
Je ne dirais pas que c'est une fin de cycle pour cette équipe-là. J'ai simplement constaté que bon, ils étaient en finale à la dernière Coupe du Monde à Paris contre les mêmes Sud-Africains. Ils ont changé d'entraîneur. Vous savez, en Nouvelle-Zélande, quand on l'objectif c'est de gagner la Coupe du Monde. Mmh. Si on la gagne pas, oui, on part avant qu'on nous mette dehors. Donc ils ont pris le meilleur entraîneur qu'ils avaient, c'est-à-dire Scott Robertson, qui est l'entraîneur des Crusaders, plusieurs fois champion du Super 12, Super 14. Mmh. Et puis on se rend compte que là, depuis le mois de fin de la Coupe du Monde, novembre à peu près 2023, sur 20 matchs, ils en ont perdu déjà 6. Mmh. 6, c'est énorme pour des Blacks. Oui. 6, c'est 30% des
il
matchs.
Il se fait dézinguer d'ailleurs l'entraîneur, là, voilà, dans la presse néo-zélandaise.
Il est déjà sur la sellette, oui, depuis quelques temps déjà, comme le disait Thierry. On ne sait pas que sur ce match-là, mais on pressentait un petit peu, il y a quelques trucs. Sur 20 matchs également, 17 cartons jaunes. Quand on regarde les statistiques, 17 cartons jaunes pour des Blacks qui sont très rigoureux, très disciplinés, là ça pose un problème. Mmh. Et sur le dernier match, l'avant-dernier match plutôt, quand ils sont rendus en Argentine, ils en ont perdu un, comme le dit Thierry, contre
c'était la première journée.
Voilà. Mmh. Et sur les deux matchs, ils ont raté 65 plaquages.
Ouais.
C'est énorme. Mmh. C'est déjà énorme au niveau international, mais de la part des Blacks dont on vantait le sérieux, la discipline, etc., là, il y a quelque chose qui va plus. Alors, pourquoi tous ces cartons jaunes, pourquoi ces fautes, etc.? Tout simplement parce que je pense qu'ils sont dominés. Ils sont dominés dans la conquête, ils sont dominés devant. Ils n'ont plus les poids lourds qui étaient en deuxième ligne. C'était une tradition, cette deuxième ligne, cette troisième ligne, etc. Là, le seul qui fait le poids, façon de parler, c'est un des frères Barrett, là, le deuxième ligne. Là. Sur les effectifs là, des deux packs, ils rendaient quelque chose comme entre 45 et 50 kilos aux Sud-Africains. C'est énorme.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme. Donc, si on est dominé en mêlée, ils ont été dominés en mêlée surtout en demi-temps, et en touche, alors là, c'est plus la peine, parce que les Anglais disent, Thierry qui a joué longtemps en Angleterre, ils disent no scrum, no win, hein, je crois qu'il y a un truc comme ça, donc voilà.
Éric Savignac, fin de cycle, pas fin de cycle de cette équipe de Nouvelle-Zélande ?
Non, pas forcément, hein, ça va, ça vient, mais c'est le championnat, moi, le championnat qui a un peu baissé de rythme, baissé de ton, donc forcément c'est leur vivier. Et pour regarder un petit peu les matchs de province, ouais, c'est moins léché, c'est moins. Donc voilà, forcément le vivier, il est moins important. Ça reviendra. Hein. À un moment donné, on a quelques nations, notamment comme la France, qui ont touché un peu le fond et qui remontent.
Cela dit, le niveau, il a monté encore. Hein. Quand on voit les Argentins faire ce qu'ils font, là...
Oui, parce que cette défaite, finalement, des Blacks a un peu éclipsé la victoire de l'Argentine en Australie.
L'Argentine, c'est 90%. Ils jouent tous en top 14.
Oui, hein, oui, complètement.
Voilà, le niveau aussi a monté, donc c'est vrai. L'Australie, comme le dit Thierry, est bien revenue parce qu'on l'avait enterré un petit peu. Mais là, il y a une bonne, même si le rugby à 15 en Australie n'est pas dans les premiers, ne joue pas les premiers rôles, il y a d'autres disciplines avant, mais c'est bien.
Il va y avoir de sacrées confrontations pour la suite de ce rugby championship, parce que si je ne me trompe pas, ça va être Nouvelle-Zélande-Australie, les deux matchs.
La Bledisloe Cup.
Vous voyez comment les choses, Thierry Cornaille, sur ces deux rencontres.
Je voulais dire avant quand même qu'il y a un championnat très équilibré dans le Sud. C'est-à-dire qu'il y a quatre équipes qui ont chacun deux victoires et deux défaites. C'est beaucoup plus équilibré que dans le tournoi destination, par exemple, où on connaît quasiment déjà les résultats en fonction de si on joue à domicile ou pas. Donc c'est un championnat quand même qui reste très difficile et qui, à mon avis, m'a beaucoup surpris, je trouve, d'un niveau très élevé, bien plus élevé qu'en Europe. Et je sens un petit peu comme un fossé au niveau des équipes nationales entre ce qui se passe au tournoi destination et ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Quoi. Donc c'est un petit peu inquiétant. Après, en effet, la prochaine journée, en fait, c'est en match aller-retour. Un match en Australie, un match en Nouvelle-Zélande. Ouais. Et puis un match de l'Afrique du Sud en Argentine et vice-versa. Quoi. Je pense que ça va être équilibré. Je ne serais pas surpris que chacun gagne à domicile. Quoi. Ouais. Je ne serais pas surpris. Ouais. Et qu'on arrive finalement à un classement au décompte des points de bonus. Selon la victoire ou la défaite, je ne serais pas surpris qu'on arrive à presque une parfaite égalité entre ces quatre nations après cette dernière journée.
En tout cas, ça va être de beaux duels à suivre. On va parler top 14 pour en finir avec cette page rugby. C'était la deuxième journée du championnat ce week-end. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, bien évidemment. Les résultats, on est à la deuxième journée. On notera que Toulouse s'est imposé sur Perpignan. Lyon, qui avait gagné un premier match, s'est imposé face à Montauban. C'est l'un des promus. Puis, il y a eu ce fameux match de ce matin, Racing 92, Bordeaux-Bègles. Il ne fallait pas être en retard au stade, Éric Savignac. 18 minutes, ouais, 18 minutes de folie pour le
Racing. Avec des jeunes, une belle équipe de jeunes, notamment Léo Carbonneau qui arrive de Brive. Voilà. Et puis le petit Hugo Nuns, là, qui mm-hmm. vient d'Aurillac, ouais. Donc, qui monte de seconde division.
Ouais, Pro D2. Ouais.
Pour suivre un petit peu la Pro D2, qui est vraiment intéressante de cette année. Mm-hmm. Voilà, ils ont trouvé un petit peu leur place. Hein. Non, franchement, c'était un match dynamique, hein, emballé, bon, sur un terrain à la Chaumane.
Voilà, des charges de l'UBB quand même, il faut le noter, hein, l'absence de la charnière internationale, hein, Lucu Jalibert. Mm-hmm. Il y a aussi Moefana qui est blessé, il y a Buros qui est derrière. Mm-hmm. Ça n'explique pas tout ça.
Ça n'explique pas tout parce qu'en fait, que le Racing marque 5 essais, mais l'UBB en marque 5 également.
Mais ça veut aussi dire que peut-être que l'UBB n'a pas le même effectif que le Stade Toulousain. Mmh. Le Stade Toulousain, ils ont 60 joueurs professionnels, ils en ont 3 équipes, ils sont tous du même niveau. Alors que c'est vrai que quand on voit les titulaires qui sont blessés, et puis derrière, je ne dis pas que les derrière, mais là, l'exemple de ce matin, avec une charnière qui a, pour l'un, Carbonneau, 20 ans à la mêlée, il a fait partie de l'équipe de France des moins de 20.
Ben, moins de 20,
et puis l'autre jeune, 24 ans, qui vient d'Aurillac, les mm-hmm. deux viennent d'un pro des deux.
Enfin,
c'est extraordinaire, national. Extraordinaire.
Thierry Cornaille.
Max Prime. Qui a fait un bon match. Enfin, c'est vrai qu'en face, ils n'avaient pas la grosse armada bordelaise. Derrière, bien qu'ils n'aient pas géré l'eau, qui va faire la doublure de Lucu. Mmh. Mais non, voilà. Ce qu'il y a d'impressionnant, c'est 4 essais en 17 minutes. Ouais. Même si Yannick Bru a parlé un petit peu à un moment donné de... Voilà. Il y avait ce dynamisme. On a senti cette vivacité, cette perforation et ses impacts. Et j'ai trouvé les Bordelais, pareil, un petit peu timorés. Ils se sont un peu repris parce qu'ils ont dû se faire secouer les côtes à la mi-temps par Yannick Bru.
Ouais.
Mais voilà, quoi. Je ne sais pas s'ils ont pris le match très au sérieux au départ. Alors, est-ce qu'ils étaient...
Un peu de suffisance, peut-être ou...
Non.
Non.
Après, c'est un petit peu particulier de jouer à l'aréna.
À l'aréna,
c'est
ouais.
très spectaculaire, etc. Je pense aussi
qu'ils sont arrivés un petit peu la fleur au fusil, puisque ouais. le Racing avait perdu le première journée à Lyon, je crois. Ouais. Ils avaient pris une tannée.
Ouais.
Et donc, ils s'étaient dit, bon... Il y a Rookie qui fait partie maintenant qui est revenu dans les rangs chez eux, etc. Ils ont pris ça un peu à l'Algérie. Puis, manque de peau. Les deux jeunes, ils ont donné cette dynamique d'entrée qui fait que, après, quand tu enfiles les perles.
Ouais, ça déroule. Ouais.
Au dernier Noël, il paraît qu'ils sont rentrés en bus à Bordeaux. Ils n'ont pas pris le train.
Ils sont rentrés à pied.
Papier.
Thierry Cornaille, quand je disais qu'il y avait peut-être un peu de suffisance, vous avez dit ouais,
clairement,
un peu.
Ouais,
c'est quoi,
ouais.
C'est le statut de champion d'Europe?
Oui, je pense que c'est ça. Et puis en effet, le Racing avait très mal démarré, beaucoup de jeunes joueurs venant de Pro D2, des gabarits d'ailleurs, moi j'ai assez surpris, c'est depuis très longtemps on n'a pas vu des joueurs avec des gabarits de 75 kilos hein, à l'arrière, et qui étaient très bons en défense d'ailleurs aussi, très bons en attaque, très vifs, très rapides. Donc c'était un vrai bonheur aussi de voir ce type de joueurs sur
les gabarits
sur le
que tu n'as jamais pu attraper quand tu étais à l'époque. C'est des petits gabarits comme ça qui te faufilaient entre tes doigts.
Ça va chambrer comme ça jusqu'à la fin.
C'est quand même c'est à noter quand même ces gabarits. Alors moi je voudrais dire un truc, il y a une chose qui m'a agacé un peu dans tous ces matchs du top 14,
oui.
C'est le recours à la vidéo,
oui.
Intempestif, mm-hmm. beaucoup trop nombreux, quelquefois pour des en avant d'un centimètre et demi. Je comprends quelquefois l'intérêt de la vidéo, mm-hmm. mais sincèrement, vidéo quelquefois pour confirmer simplement la décision de l'arbitre en attendant 2 minutes, moi je trouve que ça... dénature complètement les matchs. Mm-hmm. Hein. Et puis le deuxième un peu coup de gueule aussi, c'est je comprends plus rien entre le carton jaune, le carton orange.
Alors
et le carton rouge.
Quoi. Vous voilà, faites cette transition parce que j'allais vous en parler. C'est quoi cette histoire de carton orange? J'ai découvert ça ce matin, très honnêtement. Hein, voilà.
Alors, Pierre, la différence, un carton jaune, on peut revenir après les 10 minutes. Hein,
oui, c'est 10 minutes. Le carton orange, c'est 20 minutes.
Alors que le carton orange, on a 10 minutes dehors, mm-hmm. mais On ne peut plus revenir. Par contre, on peut se faire...
C'est 20 minutes dehors, oui.
20 minutes, ouais, excuse-moi. Mais par contre, on ne peut plus revenir quand on a été carton orange. Par contre, on peut se faire remplacer au bout des 20 minutes. C'est quelqu'un d'autre donc pour garder l'équilibre.
D'accord. Voilà. Et okay.
Précise-nous l'intérêt de mettre un carton orange à la 70e minute, par exemple.
Alors, par exemple, Carbonneau, il a pris deux cartons jaunes.
Ça s'est passé sur les deux matchs.
Deux cartons jaunes pour faute cynique. Hein, et il a pris un carton orange. Mais bon, on était sur la fin du match.
79e minute.
Voilà. C'est grotesque. D'autant que quand on a pris un
carton... Par contre, ce n'est pas grotesque au niveau de l'amende. Le club préfère avoir un carton orange.
Par contre, c'est vrai
En tout cas, c'est difficilement explicable. Ça complique un petit peu quand même les règles qui sont déjà... relativement subtil, ça complique un peu les choses quand même.
Pierre, pour conclure là-dessus.
Oui, là, le carton jaune, on n'est pas suspendu au prochain match. Par contre, le carton orange, on est automatiquement suspendu à match. Et d'ailleurs, pour ce match de Racing ce matin, c'est dommage que le carton orange soit tombé sur un Caledonien, en l'occurrence Romain, qui est rentré tranquille à la mi-temps pour renforcer son équipe, et c'était son anniversaire le jour même, donc il a pris, voilà. On donne des oranges pour souhaiter le bon anniversaire.
On va marquer une courte page de pub et on se retrouve dans un instant. On parlera d'un autre sport que vous aimez tous, c'est le football. On va partir au pays des manchots.
RRB, la pub.
Chez Lagoon, on fait plus que vous connecter à Internet. On vous accompagne au quotidien. Que ce soit pour vos loisirs, le télétravail ou rester en contact avec vos proches, on est là, tout simplement. Rejoignez-nous et découvrez nos offres sur www.lagoon.nc.
Lagoon, Internet, passionnément. Envie de nouveautés pour le retour du soleil? Ça tombe bien! La nouvelle collection Gémeaux Les Beaux Jours vient d'arriver en magasin. Que vous soyez plutôt style bohème, chic ou classique, vous trouverez votre bonheur avec les nouvelles tendances à prix accessible et ce, pour toute la famille. Alors, à bientôt chez Gémeaux!
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Samedi 27 septembre de 8h à 13h, foncez au complexe Le 4. Vente flash sur les croquettes pour chiens et chats. Un pack acheté égale 1 offert. Vos animaux se régalent et la bande à nounous reçoit 10% des ventes. Offre valable uniquement le 27 septembre. Plus d'infos sur Facebook, Le 4. Le 4, 186 rue Jacques-Yécaouet. Faites vos courses autrement.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il est 17h32 et c'est l'heure de retrouver Lionel Sabot et ses invités pour la suite de votre semaine sportmidable.
Une semaine sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et il y a un générique, donc ça sert à rien que je parle dessus. Après le rugby, messieurs, je vous propose de parler un petit peu football avec une double actualité, le championnat de France de Ligue 1 et puis c'est cette semaine que débute la Ligue des Champions avec trois clubs français qui seront engagés dans la compétition, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Je rappelle que le Paris Saint-Germain, qui est tenant du titre, recevra l'Atalanta Bergame, que Marseille se déplacera au Real Madrid et que Monaco ira en Belgique pour affronter le club de Bruges. Trois clubs qui ont bien préparé ce début de Ligue des Champions. Marseille s'est imposé 4-0 sur Lorient. Monaco est allé l'emporter 2-1 sur la pelouse d'Auxerre et le Paris Saint-Germain a battu Lens 2-0. Pierre Forest, comment vous le voyez ce début de Ligue des Champions pour les clubs français?
C'est dommage pour le Real de commencer cette Ligue des Champions avec une défaite à domicile, déjà, d'emblée. Non, puis sérieusement, je trouve que c'est très tôt dans l'année. D'abord, évidemment, il y a beaucoup plus d'équipes, il y a une nouvelle formule. Mais je trouve que c'est très tôt dans l'année et j'ai bien peur, mais je crois que tout le monde est à la même enseigne, que ce soit le championnat espagnol, italien, etc. Français et anglais, ils ont tous commencé à peu près à la même heure. Et bon, voilà. Donc il faut simplement, on est en début de saison. Il faut simplement s'imaginer que la saison va être encore plus longue que d'habitude. Et c'est dommage, puisque...
Il y a Coupe du Monde.
Donc déjà qu'on se plaignait que la saison était assez longue, on l'a vu avec les blessures uns et des autres. Il y a les équipes nationales, etc. Là, ça va être encore plus long. Je ne sais pas comment ils vont finir. Voilà. C'est juste ça.
Eric, sur ce début de Ligue des Champions, pour repasser les matchs, PSG, Bergame, Marseille, Real Madrid, Monaco, Club Bruges.
Très tôt pour un petit club de campagne comme le Real, rencontrer une grande équipe comme l'OM, c'est quand même pas mal.
Il n'y a pas de supporters de l'OM.
Ça pourra amener un peu de... Ensuite, le PSG qui va recevoir l'Atalanta,
ça devrait le faire.
Ça devrait le faire.
Et Monaco à Bruges?
Bruges, c'est pas évident. Hein. En Belgique, il y a toujours eu quelques surprises. Bon, en pensant que Monaco, j'ai été un peu supporter de Monaco puisque j'ai vécu un peu là-bas pour mon boulot. Et donc j'allais dans un stade Louis II où on devait être 3 ou 4.
Oui, c'est ça. C'est, ouais, j'y étais deux fois dans ma vie. On était 5.
Voilà, j'espère qu'ils iront battre Bruges, mais c'est jamais évident. C'est jamais évident. Voilà. Après, mais quant à l'OM, en parlant sérieusement, voilà, c'est tout. C'est
on bien peut parler de l'OM sérieusement.
Oui, bien sûr. Non,
plus
il y a Pierre qui est à côté de moi.
Vaut mieux prendre le Real de Madrid
maintenant
qu'un verre à choisir que dans un mois ou dans des mois.
Ça voudrait dire que l'OM est en finale.
Thierry Cornaille.
Je pense que le match le plus équilibré, c'est bien sûr Monaco-Bruges, hein, je pense. Le Paris Saint-Germain est quand même favori, même s'il y a eu pas mal de blessés ces derniers jours. Hein, donc une équipe peut-être un peu amoindrie. Et puis Marseille, je pense qu'a toutes ses chances. En général, elle a perdu ses deux premiers matchs championnat. Elle a gagné le troisième quand l'équipe était à 9 en face. Mm-hmm. Donc je pense que si le Real a 2 expulsés ou 3, je pense qu'il y a une chance sérieuse que Marseille, bien sûr, supporté par Pierre, a une petite chance quand même.
Ouais. Un petit mot sur le championnat de France de Ligue 1. Quatrième journée, il n'y a pas vraiment de surprise. Vous suivez ce championnat, les uns et les autres, Eric?
Moi, en dehors de Saint-Etienne, en Ligue 2, je regarde de temps en temps les matchs de Ligue 1. Bon, c'est vrai que Monaco a difficilement battu Auxerre à Auxerre. Mm-hmm. Donc on peut penser que c'est peut-être un bon signe pour eux avant le match de Coupe d'Europe. Marseille a battu Lorient. Bon, est-ce que c'est une référence, Lorient et Auxerre dans le championnat de Ligue 1? Le prochain match, nous le validerons ou pas. Voilà, donc,
Eric, la Ligue 1
FC, voilà. Mais ça vient.
Ils ont fait quoi, Toulouse? Ils ont perdu face à Lille ce week-end.
C'est un championnat qui va être largement dominé par le Paris Saint-Germain, bien sûr, qui est au-dessus du lot.
Thierry, vous suivez la Ligue 1?
Tout le monde s'accorde à dire quand même que le niveau général de la Ligue 1 est quand même plutôt faiblard par rapport aux autres championnats européens. Hein. Ouais. Et en effet, largement dominé par le PFC pour des raisons purement financières et économiques.
Hein, le PSG?
Oui, le PSG, bien sûr.
Parce que le PFC, ça existe
non,
aussi.
Non, le PSG, je dis bien le PSG. PFC, ça va être un peu dur.
Pour cette équipe. Avant de nous séparer, il nous reste quelques minutes. On va avoir le temps de parler de cette actualité. C'est les championnats du monde d'athlétisme qui ont débuté à Tokyo. Depuis quelques années, on est habitué à ce que ça fasse quelques brèves dans les journaux. Les championnats du monde d'athlétisme, notamment côté français. Puis là, ce matin... miracle. Il s'appelle Jimmy Gressier. Voilà. Très honnêtement, j'en avais jamais entendu parler avant ce matin. Et il est champion du monde sur 10 000 mètres. Eric, c'est un truc de dingue ce qui s'est passé là sur ce 10 000.
Je croyais pas à ce qu'il soit champion du monde, mais ça fait quelques années que je le suis, puisqu'il a 28 ans, et il était plutôt spécialiste sur route, 5 et 10 000, d'ailleurs, il a les deux records de France sur la distance. Et c'est un petit caractère, il est un peu vif, un combattant. Et là, franchement, à l'âge qu'il a, il a plus couru avec la tête qu'avec les pieds. Et il a maîtrisé parfaitement sa dernière ligne droite. Il a maîtrisé, voilà. Il a joué de roublardise, d'intelligence. Franchement, je suis très heureux pour lui parce que chaque fois il arrivait, il avait pris un petit peu de chambrage de la part d'un ancien ministre.
David Douillet.
Voilà, ancien judoka ministre. Qui
sur la finale olympique, c'est ça.
C'était un peu moqué, mais bon, ça peut arriver des jours sans. Et là, voilà, un joli pied de nez, champion du monde. Formidable, c'est un bon petit gars.
C'est quand même une surprise.
Oui, tout à fait.
D'autant qu'on s'attend toujours à des podiums au championnat du monde d'athlétisme, dans les sauts, à la perche, ou même dans certains lancers, puis surtout les relais. Mais là, 10 000 mètres, on est à la barre des Éthiopiennes et Kenyennes. Mais c'est dingue, c'est fou ce truc-là. Ouais.
C'est l'exploit du week-end, en tout cas.
Un exploit, mais il y travaille. Il y travaille pour suivre un petit peu sa progression. Il s'entraînait sur fond romeux. Il fait des séances, puisque je le suis sur les réseaux sociaux. Et
Vraiment, il fait des séances extraordinaires. Il a fait un travail, mais remarquable. Mm-hmm. C'est pas venu comme ça. Ouais. Alors, c'est une surprise, mais il a fait un travail incroyable. Je crois qu'il a même fait quelques stages au Kenya.
Ouais. Donc, voilà. Ça veut dire en altitude, parce qu'on a l'habitude
voilà,
de dire...
d'oxygénation, mais maintenant, bon, oui, on a besoin d'aller au Kenya, ouais. Si ce n'est pour se frotter avec avec les locaux, ouais. Mais en tout bien tout honneur. Mais surtout maintenant, on a des chambres un petit peu spéciales, avec un bar, machin. Ouais. Mais il s'entraîne surtout sur fond romain. Hein, c'est un petit gars de la mer en plus, hein, donc il a besoin d'aller à la montagne. Mais franchement, je suis très très heureux pour lui parce que il a fait un travail extraordinaire.
Thierry Cornaille.
Oui, c'est une grosse surprise, mais en tout cas, une belle surprise. Voilà, très, très heureux, en effet, pour lui, pour l'équipe de France. C'est pas souvent qu'on a des champions du monde en athlétisme. Après, il a bénéficié de circonstances extrêmement favorables. Hein. C'était vraiment la course pour lui, une course très lente. Hein. Appelle 2 minutes de plus que le record du monde. Hein. Donc, c'est énorme. C'est quasiment 2 tours de terrain plus lent. Donc, vraiment, il a bénéficié. Non, mais tant mieux. Il était là. C'était bien joué de sa part. Il a fait une superbe ligne droite, en effet, à la fin. Donc, c'est fabuleux. Et ça vient surtout après une déconvenue aux 1500 mètres où nos champions ont été éliminés dès le premier tour. Hein. Ils ne sont même pas allés en demi-finale. Et là, c'était plutôt une grosse surprise désagréable.
Pierre.
Oui, il y a un truc qui m'a surpris à l'occasion de ces championnats du monde, c'est les. Il n'y a plus de podium avec des hymnes, puisque à la fin des courses, les médailles sont données directement aux athlètes. Alors est-ce que c'est par rapport au nombre d'épreuves et qui fait que ça prend beaucoup de temps les. Voilà, donc ça fait bizarre.
C'est quand même des championnats du monde. Pour les prochains Jeux du Pacifique au CTES, c'est ça.
C'est quand même des championnats du monde.
Ça éviterait quelques nœuds au cerveau.
Un petit mot, il y a Renaud Lavillenie qui va concourir ce soir à la perche. Il est capable d'aller faire une médaille, Lavillenie, Eric Savignac.
Oui, un podium.
On sait que Duplantis sera champion du monde.
Voilà. Voilà, on ne sait jamais. Renaud, il peut.
Bien près du micro.
Pardon, il est capable.
Mais il y a un niveau, là, quand même. Bon, la première place, il est déjà octroyée. Mm-hmm. Il reste les deuxièmes et troisièmes. Mais il y a du monde, quand même. Il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Donc,
En une minute, messieurs, je vais vous demander vos coups de cœur ou peut-être coups de griffe sur le sport cette semaine. Thierry Cornaille.
Allez, moi, je vais dire Léo Carbonneau Racing, un petit jeune de 20 ans qui a donné un peu du peps. C'est l'équipe.
Ouais. Eric, allez, vous êtes là.
Bah, un collègue, Ludo Lancelier,
qui a gagné le VTNC.
Voilà, encore une fois. Bah, bravo à lui. Ce matin, il est venu au boulot, il boitait un petit peu. Mais bravo à lui. C'était une course difficile. Mais très bien. Ouais, voilà, c'est un battant. Bravo à lui.
Pierre.
Ben non, on vient d'en parler. Moi, c'est le Français, là, champion du monde aux 10 000 mètres, Gressier. C'est dingue, quoi. Ça arrive une fois tous les, je ne sais pas combien d'années, mais bon, c'est la première fois que ça arrive. Hein, champion du monde aux 10 000 mètres, je crois que c'est la première fois qu'un Français au nez à la barbe des favoris. Voilà, donc.
Il y avait
Thierry comme coup de cœur, mais il est avec nous là. Donc,
vous le gardez pour la prochaine fois.
Merci, il faudra ça en privé.
Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir pour ce nouveau numéro d'une semaine sportmidable. Et on se retrouvera bien évidemment bientôt 8 jours maintenant, parce que ça fait répétition semaine. Donc voilà, j'essaie de trouver des petites choses pour vous dire qu'on se retrouve lundi prochain. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Dans un instant, c'est Info Soir avec Léana Colombo.
Une semaine sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.